together in bands. The bleeding hearts of the artists, they face them. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Présent dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Prof. Émile, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Un homme de taille moyenne, très gros, large, le visage doux, les cheveux gris. Il porte un tablier blanc sur ses vêtements, s'approche de l'homme qui vient d'entrer.
Monsieur, si c'est pour manger, c'est trop tard, je ferme.
Comment, tu me reconnais pas? C'est moi, Auguste.
Auguste, c'est toi. J'aurais jamais pensé te revoir. Mais que fais-tu à Lyon?
Je suis venu voir ma fille
qui va accoucher. Félicitations, j'aurais jamais pensé te revoir ce soir.
Tu veux quelque chose?
Non, ça va, j'ai mangé. Alors boire un petit verre?
Oui, je veux bien. Il le fait asseoir à une table. Et va au comptoir prendre une bouteille et deux verres. Puis va s'asseoir en face d'Auguste. Remplit les deux verres. Content de te revoir, tu sais.
Moi aussi. Et que deviens-tu, Pascal? Eh bien, tu vois, j'ai pris la succession de mon patron. Je dois dire que je suis assez satisfait pour un orphelin qui s'est débrouillé tout seul. Je suis marié, mais... Ah, oui, avec une belle femme. Très belle. J'ai même un fils. Un garçon de 20 ans et qui va à l'université. J'aime ma femme que mon premier jour. Je la désire autant. Si tu la voyais, c'est une vraie petite chatte et qui aime la bagatelle. Avec elle, on s'ennuie pas, je te dis. Auguste pose son verre.
Je suis heureux que tu aies réussi ta vie. Il fait un temps que tu...
Où tu étais mal parti, tu piquais les secs. Je me suis assagi, et tout seul. Un soir que je conduisais, j'étais bourré, mais bourré, comme tous les soirs. Mais ce soir-là, j'ai manqué à renverser un gamin en criant feu rouge. J'ai tellement eu peur que je me suis juré de ne plus boire. Je ne te dis pas que ça n'a pas été difficile. J'étais obligé de me faire aider par un médecin, mais j'y suis arrivé. Il ose les épaules et dit « Je bois un peu, je suis obligé à cause du métier, mais pas plus de 3 verres par jour et encore. La plupart du temps, je remplis un verre pour trinquer avec le client. Je trempe mes lèvres dedans et c'est tout. »
Il regarde l'horloge au mur et dit
« Je fais tard, je dois partir, on va s'inquiéter. Je m'excuse, mais j'habite à une demi-heure de Lyon. Viens me voir une autre fois plus tôt, ou à la maison. Tu as mon adresse ? » ?
Oui, moi aussi je dois partir. Je dois me lever tout demain pour rouler. » Ils se lèvent tous deux.
Au fait, comment s'appelle le petit ?
C'est une petite. La mère veut l'appeler, comme elle, Denise.
Ma foi. Allez, il faut se quitter. Ils se disent au revoir. Merci d'être venu, cela m'a fait plaisir.
Moi aussi, j'étais heureux de te revoir. Et ils sortent du restaurant. Pascal va reprendre son balai. Après avoir fermé un restaurant, il prend la voiture. Il habite à Bourgoin, dans une petite maison ancienne qui est attenante à une ferme. Elle a un étage. En bas se trouve la cuisine, une pièce débarras. En haut, 2 chambres, salle commune, salle de bain, WC. Il va arrêter sa voiture dans la cour. Et entre chez lui. Le couloir est carré, petit, mal éclairé. Il y a contre le mur des cartons bourrés de livres. Il entre dans la cuisine. La pièce est grande, meublée de bric-à-brac, et tout est en désordre. Sa femme est à table qui regarde la télévision. Elle est petite, mince, cheveux châtains, visage doux. Elle est habillée d'une robe en jersey jaune très courte. Il s'assoit à côté d'elle. Il l'embrasse sur la joue, elle ne réagit pas. Il est heureux d'être à ses côtés. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. J'ai faim. Elle ne dit rien, ni ne bouge. Il se lève. Va à la cuisinière pour ouvrir les casseroles. Tu as fait du poulet, c'est bien. Puis il va à l'évier pour prendre une assiette et une fourchette. Les gouttes, puis va se servir et retourne se mettre à table. Il commence à manger et lui demande « Qu'est-ce que tu as fait ce matin ?» Elle ne répond pas. Une fois qu'il a fini de manger, il la prend par le cou et regarde la télévision.
C'est admirable ! Et voilà, le résultat est parfait.
Calgonite compact, il faut le voir pour le croire.
Une heure plus tard, ils sortent de la cuisine pour aller se coucher. Ils montent un escalier étroit en bois.
Ah tiens, ça va faire du bien d'aller se coucher.
Arrivé au premier, il ouvre la porte du séjour. Se trouve son fils qui est avaché à terre devant sa chaîne IFI et écoute de la musique. Un jeune homme de 22 ans, grand, maigre, cheveux longs, noirs, visage osseux, habillé de noir. Le père s'approche de lui. Et se penche pour l'embrasser.
Salut fiston, ça va ?
Le fils ne réagit pas.
Bon, eh bien, allons aller nous coucher. Éveille pas trop tard.
Et il sort de la pièce. Ouvre la porte de sa chambre. Sa femme y est déjà, assise sur le lit, à enlever ses bas. Il va vers elle, s'asseoir à ses côtés. Et commence à se déshabiller. Une fois qu'ils sont au lit, il se penche vers elle, veut mettre la main sous sa chemise. Elle se raidit et dit « Non, je suis fatiguée.
J'ai envie. Tu veux pas un petit peu ?»«
Non, laisse-moi tranquille.
Bonne nuit. »
Et se tourne du côté du mur. Le lendemain matin, avec sa voiture, il l'accompagne à son travail. Elle est secrétaire d'un dentiste et lui part au sien. Les jours passent ainsi. Tous les soirs, il est reçu de la même manière, indifférente, par sa femme et son fils. Sa femme ne lui parle pas et son fils reste enfermé dans sa chambre à écouter de la musique. Lui commence à s'en apercevoir et se dit
« Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi me font-ils la tête? Moi, je me comporte toujours bien avec eux. »
Après 3 semaines de ce régime, rentre chez lui Laurent Morose. Cela l'irrite de voir qu'on le traite comme s'il n'existait pas. Un soir, n'en pouvant plus, il entre dans la cuisine.
Il faut le voir pour le croire.
S'assoit à côté de sa femme.
Et lui dit « J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu me fais toujours la gueule. C'est vrai ça. J'arrive à la maison et tu me dis jamais rien. »
Elle regarde toujours la télévision. Cela l'énerve. Il se lève pour la fermer. Elle le regarde surprise et lui dit « Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas, non ?» Elle se lève pour remettre le poste en marche.
Qu'est-ce que tu peux être nerveuse ces temps-ci alors, toi?
Dans le lit, il s'approche d'elle. Elle lui dit « Non, je ne veux pas !» Comme cela fait un moment qu'il n'a pas fait, il l'irrite. Il insiste avec la main en essayant de relever son déshabillé. «
Tu es chiant !»
Elle le pousse d'une façon tellement forte qu'il tombe à terre. Cela l'a surpris, il n'ose rien dire et se recouche. Le lendemain matin, en prenant son petit déjeuner à la cuisine, il est assis à côté d'elle et lui demande
« Peux-tu me dire ce qui se passe ?»«
Rien, j'ai besoin que tu me fiches la paix. Tu m'énerves. » Elle jette sa cuillère sous la table et se lève pour ranger le petit déjeuner. Après quoi, la raccompagne à son bureau et part à son travail. Midi, elle ne travaille pas. Alors, elle en profite pour aller voir son père qui habite à l'autre bout de la ville dans une grosse maison familiale du 19e siècle au fond d'un parc. La maison est 2 étages, de vastes pièces, meublée Louis XV, c'est propre, net, ça sent la cire, l'on marche sur du parquet ou des tapis. Le père de Gisèle Duchesne, Monsieur Auguste Champagne, vit avec une femme de chambre, cuisinière et un jardinier. Il était directeur commercial d'une grosse société de produits chimiques et sa famille est une vieille famille de notables lyonnais. Gisèle, en petit tailleur rouge et bas noir, monte le perron et sonne à la porte. Lui a ouvert une petite femme de 30 ans habillée en bonne. « Bonjour madame. Bonjour Amélie. Je peux voir mon père ?»« Oui madame. Bien, je monte. » Et monte des escaliers de pierre qui mènent aux étages. Au premier, elle suit un couloir et frappe à une porte.
« Entrez !»
Elle entre.
C'est toi, ma petite.
Oui, père. La chambre est vaste, avec de grandes baies vitrées. La tapisserie est blanche et or. Les meubles sont Louis XIII. Dans un grand lit se trouve un homme tout maigre et chauve. Il a des yeux qui lui sortent de la tête et un côté coquin. Elle s'approche de lui. L'embrasse et s'assoit sur le fauteuil qui est près du lit. Il touche presque le lit.
« Alors, comment va ma petite chérie ?»«
Ma foi, ça va. Et ton imbécile de mari ?»«
Lui se porte très bien, toujours aussi stupide. »«
Et Frédéric ?»
Elle sourit. « Ah, Frédéric, il m'a montré sa Ferrari. Il m'a dit que je méritais mieux que cette vie que je mène. »«
Frédéric, c'est un monsieur, tu sais, lui. Il n'est pas comme l'autre. » Quelle idée tu as eue de vouloir te marier avec lui?
Parce qu'il me faisait rire et qu'il connaissait des tas de choses pour faire l'amour.
Frédéric aussi?
Oui, je le sais. Je suis allé à l'hôtel avec lui. Il m'a fait faire des tas de choses.
Ah, tu vois.
Le père met la main sur la cuisse de sa fille, appuie très fort et monte. Elle écarte les jambes pour laisser le passage de la main. Il monte jusqu'en haut.
« Viens t'allonger sur le lit de ton petit papa. »
Elle se lève. Enlève la veste de son tailleur et sa jupe. Puis s'allonge à côté du vieux.
qui se met à lui caresser les seins.
Tu es gentille, tu aimes ton vieux père.
Vous savez bien, père, que lorsque mon touche, je ne peux plus rien faire.
Elle se laisse aller.
Je ne vais pas me faire croire, père, que vous bandez.
T'occupe pas de ça.
Il met la main entre ses cuisses. Son père a été son premier amant. Elle avait 12 ans et demi.
Pascal, en entendant se coucher, entend qu'il vient de la salle commune de la musique rock, mise d'une façon assourdissante. Il entre dans la pièce. Trouve son fils, avachi, devant sa chaîne, qui écoute.
C'est trop fort! Baisse!
Le jeune ne réagit pas. Le père baisse le son. Le jeune se lève et lui dit
« Vieux con ! Non mais dis donc, qu'est-ce que cette façon de me parler ? Je suis ton père ! »
Le jeune hausse ses épaules, le père lui donne une gifle et sort de la pièce.
Cette gifle avait plus de mal au père qu'au fils. Pascal souffre. Il voit que sa femme ne fait pas attention à lui. Il se sent étranger chez lui. Il aimerait s'expliquer avec elle, mais ne sait comment faire. Il a l'impression qu'elle ne veut rien savoir.
Si au moins je savais pourquoi elle m'en veut.
Lorsque Pascal se trouve seul dans le restaurant et que c'est l'heure de prendre la route pour rentrer chez lui, il se sent gêné, agacé. Il n'a plus envie d'aller dans une maison où il se sent étranger. Alors, il traîne de plus en plus tard dans le restaurant, à vérifier les comptes, ranger, préparer pour le lendemain, tourner en rond, jusqu'à ce qu'il se sente fatigué. Gisèle va de plus en plus souvent chez son père. Elle ne peut s'en empêcher. Il s'est si bien caressé. Quelquefois, elle rentre bien après Pascal.
Où étais-tu ?
Chez mon père.
Tu continues à voir ce sale gros qui a tout fait pour nous séparer.
Il est très malade et a besoin de moi.
Et moi ?
Elle hausse ses épaules.
Le soir, elle repousse toujours aussi violemment son mari. Un soir, alors qu'elle dormait, il se penche vers elle pour l'embrasser. Elle sent son corps sur elle.
Non, tu me dégoûtes.
Il le repousse avec une telle violence que cela le surprend. Mais reprend ses esprits furieux.
J'en ai assez. Je veux savoir pourquoi tu me repousses.
Il se penche vers elle et lui dit.
Tu vas me parler ou je t'étrangle.
Elle est furieuse dans la façon dont il lui a parlé. Si tu veux savoir, j'ai baisé avec un autre. Et c'était merveilleux. Il m'a fait jouir comme une folle. J'ai jamais été aussi heureuse dans les bras d'un homme. Elle le regarde
et voit avec satisfaction qu'il souffre. Elle continue avec sadisme. Il m'aime, lui. Il m'a fait comprendre que tu ne m'aimais pas. Tu n'es qu'un pauvre type. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu passes ton temps dehors et me fais vivre dans un endroit impossible. Il a une Ferrari rouge. Veut que j'habite une belle maison digne de moi. Il s'assoit sur le rebord du lit et baisse la tête.
Je ne te crois pas.
Elle s'étire comme une chatte et dit Tu veux savoir qui c'est? Elle le regarde et sourit. C'est Frédéric Laville, ton meilleur ami. Cela fait 6 ans que nous nous voyons 3 fois par semaine, mon vieux.
Et tu l'aimes?
Oui. Il se lève. Il va vers la fenêtre. Il regarde le ciel étoilé. Tout à coup, elle pense qu'elle a été trop loin, qu'il ne faut pas rompre. Elle a encore besoin de lui. Elle ne veut pas se retrouver seule. Elle serait prise entre son amant et son père. Elle s'assoit et dit « Tu comprends? Il me disait constamment que tu ne m'aimais pas, que j'étais malheureuse avec toi et que lui m'aimait vraiment. Et puis, pour me prouver, il me faisait jouir comme je ne l'ai jamais été. Alors, bien sûr, de m'entendre dire que tu ne m'aimais pas, je l'ai cru à chaque fois. Que tu me touchais, ça me dégoûtait. » Elle soupire et fait comme si elle retenait ses larmes. Voit qu'il ne bouge pas. Elle a peur et dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Il se retourne. Et voit avec victoire dans ses yeux tout son amour. Sourit et lui dit « Oui, je vois que tu m'aimes. » Elle lui tend les bras. Il s'approche d'elle. L'embrasse. Et lui dit les larmes aux yeux « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, tu m'aimes. Que je suis heureuse. Comme j'ai été malheureuse de croire que tu ne m'aimais pas. Comme j'ai souffert. Oh, mon tout petit. Oh, si tu savais, mon chéri, cela a duré 6 ans. Oh, 6 ans. Quel calvaire j'ai vécu.
Mais c'est fini maintenant.
Oui, c'est fini. Il l'embrasse. L'enlace. La déshabille. Se déshabille. Et la prend comme un fou. Elle gémit. Crie. Hurle. Elle en fait des tonnes. Des tonnes. Il est heureux. Elle sourit en se disant comme ça lui fait plaisir quand on lui dit des choses qui lui font mal. Après avoir fait l'amour comme des bêtes, ils sont partis à leur travail. Les jours passent. Le soir, il rentre chez lui et le reçoit comme une amoureuse. L'embrasse de partout, le fait manger, le caresse. Dans le lit, c'est la corrida. Il est heureux et lui a juré de ne plus revoir Frédéric. Tu es fou, c'est toi que j'aime.
Thank you.
soir, ils rentrent. Elle n'est pas chez eux. Monte voir le fils.
Où est ta mère?
Peut-être chez son père.
Pascal le quitte, furieux.
Et va attendre sa femme dans la cuisine.
Arrive. Elle se pince son cou pour l'embrasser. Il la retient.
Où étais-tu?
Chez mon père.
Je t'avais dit de ne plus le revoir. Il a tout fait pour nous séparer. Il ne m'a jamais aimé, ton père. Je ne veux plus que tu ailles le voir.
Elle le regarde d'un air futé, coquin, et lui dit. Tu es jaloux de mon père?
Je n'aime pas la façon dont il te regarde.
Père, c'est mon père. Il est très possessif.
Un peu trop. J'ai l'impression qu'il a des désirs incestueux avec toi.
Elle baisse la tête, voit qu'il souffre. Il croit voir qu'elle lui cache quelque chose.
S'est passé quelque chose avec lui?
Non.
Réponds.
En fait, lui aussi me disait, comme Frédéric, que tu ne m'aimais pas. Et j'étais prise entre eux deux. J'ai beaucoup souffert, tu sais.
Pourquoi le revois-tu?
Elle s'approche de lui. Parce que c'est mon père, et que l'on ne peut pas oublier certaines choses. Il a mis son empreinte dans ma peau.
Il comprend.
Il pleure et lui dit, je savais comme j'ai souffert entre ces deux. Qui disait que tu étais un salaud, et que tu ne m'aimais pas.
Il la prend dans ses bras, ému.
Et maintenant, tu crois que je t'aime?
Oh oui.
Il l'embrasse
et lui dit,
oublions tout et partons à zéro. Hein?
Et la vie continue. Un soir, son mari lui dit
« Je suis permis d'inviter dimanche mon vieil ami Auguste. J'espère que ça ne te dérange pas. »
« Non, tes amis sont mes amis. »«
Tu es gentil. »
« Il arrive à quelle heure ?»«
Tu es dit de venir à 11h pour que l'on puisse faire la grosse matinée. »
Et le dimanche matin à 11h, arrive Auguste avec des fleurs. C'est Pascal qui lui ouvre.
Salut, entre.
Il entre.
Tu as amené des fleurs, mais il ne fallait pas. Gisèle, Hubert vient d'arriver.
Elle sort de la cuisine avec le sourire.
Bonjour, dit-elle.
Il lui tend les fleurs.
Oh, mais il ne fallait pas. Merci.
Pascal pousse tout le monde.
Allons à la cuisine. J'ai préparé un gigot d'agneau. Tu aimes, j'espère.
Oui, j'aime tout. Mais il ne fallait pas vous mettre à frais.
Il s'assoit à table. Table est déjà mise. Gisèle est à côté d'Auguste. Son mari est debout au fourneau. Durant tout le repas, Gisèle n'a fait que regarder Auguste et lui parlait de choses insignifiantes avec un regard langoureux. Auguste se sent gêné par la façon dont elle le regarde. En plus de ça, elle a une robe très courte qui monte très haut. Elle est assise d'une façon suffisamment éloignée pour qu'il puisse voir ses jambes. Gisèle, chaque fois, voit qu'elle est à côté d'un homme. Elle ne peut s'empêcher de chercher à le séduire. Elle est comme une chatte en chaleur. Après le repas, ils sont allés faire un tour à pied dans la ville. Pascal fait de grands gestes pour expliquer les lieux. Gisèle et Auguste restent un peu en arrière. Elle le regarde. Auguste d'un air coquin et le frôle. À un moment, je regarde une basse cour où se trouve plein de plumes à terre. Comme s'il y avait eu un combat. Auguste dit, le cop s'est battu avec les poules et lui dit avec un regard en coin. Le plus souvent, ce sont les plus jolies poules qui se font plumer. Et elle lui frôle la main qui est sur le grillage. Auguste rougit car il a à côté de lui Pascal. Lorsque l'heure du départ arrive, Auguste est heureux de s'en aller et se dit « Pauvre Pascal !» L'après-midi, lorsqu'elle est seule, elle retourne voir son amant Frédéric Laville, qui est professeur de lettres. Elle le retrouve dans un petit hôtel en dehors de la ville. Elle a les clés de la chambre, payée un mois à l'avance, et attend son amant. C'est une chambre d'hôtel toute simple, mais propre. Elle quitte ses chaussures. Et attend allongée sur le lit. Il a frappé et entré, s'approche du lit. Se rue sur lui, le couvre de baisers et le déshabille. J'ai envie, je veux que tu me prennes comme une chienne, lui retire son slip. Le sexe qui bande, elle salive. Fait bouger sa langue de plaisir et le suce. Puis se déshabille en vitesse et s'allonge sur le lit. Prends-moi, je t'en prie. Je t'en supplie. Elle le plaque contre elle, le couvre de baisers. Se soulève et se le met. Et font l'amour comme des fous, ou plutôt c'est elle. J'ai envie. Fais-le, vas-y. Allongés l'un à côté de l'autre, lui épuisé, elle en pleine forme, tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai eu à lui faire en le faisant souffrir, en lui parlant de nous deux et de mon plaisir avec toi. De toute façon, tu aimes trop les hommes pour appartenir qu'à un. Tu as raison et je me demande si c'est l'amour ou les hommes que j'aime. Il lui demande inquiet, il ne risque pas de venir me casser la figure. Penses-tu? Il est bien trop bête. Le soir du même jour, elle est dans son lit avec son mari. Couchée sur lui, elle lui caresse sa poitrine, se soulève et lui suce le sexe. Après quoi, le mari lui demande « Tu m'aimes ?»«
Oui, bien sûr, mon chéri. Et dire que j'ai failli te perdre à cause que l'on me disait sur toi. Oh. »
Un soir au restaurant, son ami Auguste est venu le voir. Il a pris un repas. Et après le repas, et que tout le monde soit parti, il est resté un moment à parler. Ils sont assis tous deux à boire une tasse de café. Pascal demande « Comment trouves-tu ma femme? Elle est bien, hein ?» Auguste fait vouiller la tête et se dit « Le pauvre !»
Et même si tu savais, nous vivons une seconde lune de miel, elle et moi. Et dire que j'ai failli la perdre, figure quoi? Qu'elle me trompait avec mon meilleur ami et que ce saligo a réussi à lui faire croire que je ne l'aimais pas. La pauvre, elle a beaucoup souffert, mais elle a compris que je l'aimais. Un jour, elle m'a tout avoué. En fait, je l'ai forcé à tout le m'avouer. Je sentais de la résistance à mon égard. Alors, elle m'a tout dit et a tout de suite compris que je l'aimais. Maintenant, c'est le paradis.
Deux heures plus tard, il a pris sa voiture. La route est glissante, il a plu. Éviter un chien et la voiture s'est cognée contre un mur. Ambulance, hôpital. Le cerveau a été touché. Il ne peut marcher, ni parler, ni faire l'amour. Mais il est conscient et son intelligence est intacte. Après quelque temps à l'hôpital, on l'a ramené chez lui, allongé dans son lit, avec des appareils pour qu'il puisse se soulever. Une infirmière vient chaque matin faire des soins. Sa femme continue à travailler, son fils ses études. Lorsqu'il passe devant la chambre, ils viennent lui dire un petit bonjour. Sa femme couche sur un canapé dans la pièce commune. Il semble ni heureux ni malheureux, on ne sait pas. À quoi il pense. Il ne peut ni s'exprimer par écrit, ni parler, ni par geste, puisque ses membres sont paralysés. C'est sa femme qui le nourrit la cuillée et lui parle des nouvelles. Pour le distraire, elle lui a mis à sa portée un vieux poste de radio. Auguste est venu lui dire un petit bonjour, c'est sa femme qui l'a accompagné jusqu'à la chambre. Son beau-père aussi, car lui va mieux. Il tient sa fille à la taille, chuchote des mots, l'embrasse, elle rit comme une folle. « Alors mon petit gendre, vous allez mieux ?» Il regarde sa fille et lui dit « ne peut pas reprendre ma foi. Il y a beaucoup de femmes qui seraient heureuses d'avoir un mari comme ça. » Et il se retire. Avant de sortir, il soulève le derrière de la jupe de sa fille et se retourne en faisant un clair d'œil à Pascal. Même Frédéric est venu le voir. Il s'est approché du lit.
« Bonjour mon vieux, je suis de tout droit avec toi.
Est-ce qu'il nous entend ?» Gisèle lui dit. « Il paraît que oui. »«
Pauvre vieux, va. T'en fais pas, on s'occupe de ta femme. »
Et ils sortent de la pièce. On entend derrière la porte Frédéric dire « Tu viens ce soir ?»«
Oui. » »« Arrête de me chatouiller comme ça. »
« Tu en as envie, non ?»«
Oui, attends, si, oui, non, oui. »
Un après-midi, ils étaient tous dans la chambre. Pascal les regarde, un à un, avec des yeux horrifiés. Le médecin vient aussi aux nouvelles. C'est un petit homme chauve à lunettes. Il est devant Pascal, à côté de Gisèle, et dit
« Il n'y a rien à faire.
Mais je viens, c'est surtout pour vous, petite madame. Il faut vous distraire, vous soigner. »
Il lui tapote les mains.
« Un petit week-end à la campagne, dans une auberge.
Ça ne se refuse pas, non ?
Je saurai m'occuper de vous, moi. Je saurai vous soigner. Allons. Alors, c'est vous ?
Je ne sais pas, mais... qui va s'occuper de
le docteur ou ses épaules? Il n'a plus besoin de rien. Et puis, s'il lui arrivait quelque chose, ça n'aurait pas bien grave. C'est un légume de toute façon.
Je serai là pour vous aider pour les formalités.
Laissons-le 2 jours. Il ne s'en apercevra même pas.
Vous ne pouvez pas dire non.
Vous êtes libre. Il ne peut avoir rien vous interdire.
Et l'ose des épaules et dit oui.
Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Brove Pascal, production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.